Bonjour à tous. Donc, ce podcast a pour but de vous expliquer les statistiques donc des abus sexuels sur mineurs en France, d'après les données dont on dispose, le peu de données dont on dispose, comment sont faites ces données, enfin, quelles sont les sources, qu'est-ce que ça veut dire, et puis au fur et à mesure, donc c'est plutôt un podcast qui se regarde, puisqu'il y aura des graphiques, il y aura des tableaux, et il y aura voilà, des chiffres et des données et des cartes que je vous détaillerai au fur et à mesure. Donc c'est vrai que pour ceux qui aiment écouter en voiture, bon bah il faudra que vous retourniez sur les articles pour regarder un petit peu ça en détail. Donc ça va être assez simple, ça va consister à vous lire un certain nombre d'articles qui avaient été faits au fur et à mesure des années sur les chiffres donc des statistiques d'abus sexuels sur mineurs en France. Donc je m'excuse d'avant, il y aura peut-être quelques redondances, mais c'est vrai que dans chaque article, il y a des fois des choses en plus, notamment sur les dom-toms, ou etc. Donc et on va progresser comme ça chronologiquement. Comme vous savez, les chiffres donc sortent chaque année, et donc chaque année on essaye de faire un article, et puis vous verrez qu'il y a eu quelques péripéties. Donc on va garder un ordre chronologique. Et pour arriver à la fin, à ce qui est le plus actuel, donc ce podcast s'est enregistré en février 2022, donc les derniers chiffres concernés seront ceux de 2021. Donc globalement, on va s'intéresser principalement aux chiffres donnés par le ministère de l'Intérieur, dans un premier temps, puisque bah, quand un enfant est abusé, si il souhaite ou si enfin, la situation fait que cela arrive sur on va dire, dans le processus institutionnel. Bah ça passe d'abord évidemment par les services de police ou de gendarmerie, puis dans un second temps, et vous allez voir pas dans tous les cas, ça va arriver éventuellement à la justice. Voilà, et chronologiquement comme ça. Et puis s'il est condamné au pénitentiaire pour l'accusé. Donc on va commencer d'abord par les chiffres du ministère de l'Intérieur, et puis on finira par un article sur le ministère de la Justice, dont on dispose de beaucoup moins de chiffres, où c'est beaucoup moins clair, mais qui donne un petit peu une idée de ce que sont les suites de ces chiffres. En préambule, j'aimerais vous rappeler une chose, même si on va parler beaucoup de chiffres, de pourcentages, etc. Évidemment, n'oubliez jamais que derrière ces chiffres un peu froids, ben, ce sont des enfants. Ce sont des vrais enfants, ce sont des enfants qui se font violer, ce sont des enfants qui peuvent se faire violer des dizaines de fois et qui comptent pour un. Ce sont des histoires de vie brisées, ce sont des gens qui vont sortir de l'enfance cassés en mille morceaux, qui auront beaucoup, beaucoup, beaucoup de mal à se reconstruire, qui vont porter ça toute leur vie. Voilà. Heureusement, certains arrivent à construire une vie entre guillemets normale, avec une vie de famille, une vie professionnelle épanouie, et tant mieux, heureusement, qu'il y a une résilience. Néanmoins, voilà, on va parler beaucoup de chiffres. N'oubliez pas que derrière, ce sont des vrais enfants, des vrais adultes, des vrais enfants devenus adultes par la suite. Et ça mine notre pays. Donc voilà. Allons-y. On commence par un article qui a été écrit en 2015, qui s'intitule donc Analyse des chiffres disponibles sur la pédocriminalité en France de 1996 à 2014. Alors effectivement, l'association anti-pédo a commencé réellement à exister et à faire un site concret aux alentours de 2015. Donc là, c'était vraiment les 6 premiers mois de l'asso. Et donc, on a repris les chiffres qu'on a trouvés. Et donc, les archives les plus anciennes à l'époque commençaient en 1996, sachant qu'aujourd'hui, ça recule au fur et à mesure. Et donc, les chiffres enfin, aujourd'hui, si vous allez sur les mêmes chiffres, il n'y a plus que 98, je crois, ou 2000. Donc, en fait, à chaque fois, on rogne des années et puis les archives disparaissent. Mais bon, en tout cas, nous, on les a depuis 96. Allons-y. Donc, origine et nature des données. Donc, les données de criminalité, elles sont issues du site de l'Institut national des hautes études et de la sécurité et de la justice, l'INHESJ. Et elle regroupe donc les constats faits par les services de police et de gendarmerie sur presque l'ensemble du territoire français. Donc effectivement, services de police pour les zones urbaines, services de gendarmerie pour les zones rurales. Ce sont donc des délits constatés. Donc, en fait, on a affaire à des plaintes ou ça peut être aussi du flagrant délit ou des choses constatées par un médecin et puis qui arrivent à la gendarmerie. Voilà. Donc, c'est vrai que voilà, là-dedans, il y a, on va dire que ce ne sont pas des condamnations en justice en tant que telles, évidemment, ce qu'on appelle des faits constatés. Voilà. Et alors c'est vrai que c'est traité comme plein d'autres délits et crimes qui sont classés par index. Donc on va s'intéresser ici dans un premier temps à quatre types de délits et de crimes qui affectent les mineurs qui ont été étudiés et sont regroupés en index. L'index 52, violence et mauvais traitements et abandon d'enfants. Index 49, harcèlement sexuel et autres agressions sexuelles contre des mineurs. Index 47, viol sur des mineurs. Index 51, homicide commis contre enfants de moins de 15 ans. Alors, il est entendu que quand on dit mineur, c'est toujours mineur de 15 ans. Et quand on dit mineur de 15 ans, c'est mineur de moins de 15 ans. Voilà. Donc les autres index, eh ben, c'est vol, effraction, je ne sais quoi, fraude fiscale, voilà, tous les types de délits et de crimes qui peuvent exister. Et donc c'est classé comme ça en index. Et donc tous ces index, tous ces chiffres, c'est ce qu'on appelle globalement l'index 4001, voilà, qui regroupe tous les crimes et délits. Les données de démographie qu'on va utiliser sont issues de l'Institut national de la statistique et des études économiques, que vous connaissez plus habituellement sous le nom de INSEE, donc notamment qui va vous dire combien il y a d'habitants en France, quel âge ils ont, etc. Ce qui permet évidemment de rapporter au nombre d'habitants, puisqu'on peut vous donner des volumes bruts, mais vous vous doutez bien que dans une ville comme Paris, vu qu'il y a beaucoup plus d'habitants, eh bien, il y a beaucoup plus de viols sur mineurs que dans un département où il y a très peu de gens, ou dans une ville où il y a très peu de gens, forcément. Donc, pour pouvoir comparer Paris le département de Paris 75, et pouvoir comparer avec un département beaucoup moins peuplé, comme, je ne sais pas, l'Ardèche, eh bien, du coup, effectivement, il faut ramener le nombre brut de viols sur mineurs par rapport à la population générale, évidemment. Et donc, on va parler de nombre de viols pour 100 000 habitants, pour pouvoir comparer les régions entre elles. Voilà, donc combien on a de viols sur mineurs pour 100 000 habitants en Picardie, pour 100 000 habitants en Strasbourg, etc. Enfin, dans le Bas-Rhin, etc., etc. Voilà. Donc, forcément, on a besoin aussi des données de population. Donc les chiffres de population légale utilisés sont ceux, donc les recensements sont faits de manière périodique, tous les à peu près 7 ans. Donc on va là sur la, la ils sont pas faits tous les ans. Donc on est obligé de prendre ces chiffres sur la période 96-2014. Il y a eu trois recensements, donc celui de 99, celui de 2006, celui de 2012. Et donc après on va essayer de lisser ces populations avec ces trois chiffres pour obtenir des populations estimées pour les années entre 99 et 2006, et entre 2006 et 2012, et au-delà jusqu'en 2014. Autre chose, dans ce premier article, on s'intéresse à quatre index, et en fait, vous vous apercevrez que dans les autres articles, on a assez rapidement laissé tomber ou moins parlé de deux d'entre eux. Donc le premier dont on va parler ici, mais dont on parlera moins après, c'est violence, mauvais traitement et abandon d'enfant, parce que finalement, c'est très 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 large en fait comme dénomination. Ça recouvre beaucoup de choses différentes. Donc c'est vrai que par la suite, on a plutôt essayé de se concentrer sur les agressions sexuelles et les viols. Et puis les homicides sur enfants, en fait, ce sont des chiffres très petits. On est dans l'ordre de 50 homicides par an. Alors, si on prend les données officielles, évidemment, si vous considérez, notamment si vous regardez les articles réseau, qu'il y a des enfants qui naissent sans identité, sans état civil, les enfants de prostituées ou des enfants clandestins ou des enfants qui disparaissent et qui sont tués et qu'on ne retrouve jamais, il est possible que ces chiffres soient beaucoup plus importants. Néanmoins, là, on reste sur les statistiques officielles. Les statistiques officielles donnent une cinquantaine d'homicides par an. Donc c'est vrai que les variations, on peut être à 45, on peut être un peu plus, mais finalement ce sont des crimes qui sont très rares, très très rares. Vous imaginez 50 homicides d'enfants sur 70 millions d'habitants. Bon évidemment, Il y a moins d'enfants que 70 millions, mais donc c'est vrai qu'on a parlé des évolutions de ce chiffre qui est très petit. Ça donne pas beaucoup d'indices en fait de l'évolution des choses. C'est assez erratique et donc c'est vrai que dans les articles suivants, vous verrez qu'on va se concentrer uniquement ou principalement sur les index 49 et 47, donc harcèlement sexuel et autres agressions sexuelles sur mineurs et viol sur mineurs. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a des chiffres, enfin des volumes de délits et de crimes assez grands, et donc du coup on a un indicateur très fiable de ce qui se passe en France, ou en tout cas de ce qui se passe dans les gendarmeries et les commissariats en rapport avec les abus sexuels sur mineurs. Voilà pour la présentation du contexte et des données, des sources. Les limites des données étudiées. Alors, les données sont présentées dans des tableaux et des cartes de cet article, présentent plusieurs limites qu'il faut garder en tête. Premièrement, les quatre types de crimes et de délits commis sur les mineurs, donc je vous ai cité juste avant, regroupent des actes différents et ne nous permettent pas de différencier la pédocriminalité de réseau, dont je vous parlais juste avant, les prédateurs isolés, soi-disant, et la pédocriminalité domestique, ce qu'on va plus généralement aujourd'hui, en plus ça a pris de l'ampleur au niveau médiatique, ce qu'on va parler d'inceste. Et donc effectivement, ça met tout ensemble. Hein. Est-ce que ça s'est passé au club de foot? Est-ce que ça s'est passé à l'école? Est-ce que ça s'est passé à l'église? Est-ce que ça s'est passé dans un parc où il s'est fait attraper? Est-ce que ça s'est passé dans un réseau de familles qui s'échangent leurs enfants? On n'a évidemment aucun détail de tout ça. À titre d'exemple, prenons un index viol sur mineur. Ça peut recouvrir entre autres les différentes variantes. Donc là, on n'est même pas sur des variantes de lieu où on est des variantes juridiques. Par exemple, ça recouvre viol commis par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime. Donc là, on va plutôt parler effectivement de parents, d'inceste, mais pourquoi pas aussi de professeurs ou de gens ayant autorité, ou de tuteurs, ou de gens d'enfants qui sont à l'ASE, qui sont sous l'autorité donc de l'ASE, et puis par des gens qui ont tout pouvoir sur eux, qui sont en foyer, par exemple. Ou alors ça peut recouvrir les viols par une personne abusant de l'autorité que lui confère sa fonction. Ah oui, pardon. Donc ça c'est plus effectivement, par exemple, professeur ou les services sociaux. Viol commis par une personne mise en contact avec la victime par réseau de télécommunication. Donc là effectivement, on a plus beaucoup à faire à ça sur les réseaux sociaux aujourd'hui, les chats, etc. Donc c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle le grooming en anglais, c'est-à-dire qu'on va aller piéger, habituer, ouais, c'est piéger en fait un mineur en essayant de lui demander des photos nues et après en le faisant chanter pour obtenir des faveurs sexuelles, enfin des faveurs, pour abuser sexuellement de lui. Ça peut recouvrir viol avec plusieurs circonstances aggravantes. Donc là, circonstances aggravantes, on peut parler de menaces, on peut parler de torture, on peut parler de beaucoup de choses. Viol commis en réunion. Donc là où c'est un groupe qui abuse de l'enfant. Donc là, on est dans une certaine complicité, une certaine organisation, et en tout cas, voilà, un groupe. Ça peut être un viol ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente. Voilà, là on peut aller sur des actes de barbarie, de la torture, etc. Viol ayant entraîné la mort. Donc c'est encore autre chose. Et viol avec effectivement torture et actes de barbarie. Donc sachant que ces différentes catégories peuvent s'additionner et se recouvrir partiellement ou complètement les unes les autres suivant la situation. Donc vous voyez bien qu'on est sur des chiffres très globaux et qui ne détaillent pas grand-chose. Pareil au niveau des limites, les données sont présentées par département, ce qui regroupe à la fois des zones urbaines et des zones rurales, qui pourtant sont respectivement données par la police et la gendarmerie. On peut imaginer qu'il y a un biais selon le fait que le cas soit traité dans un commissariat ou dans une gendarmerie. On sait très bien que ce sont des cultures totalement différentes. Les gendarmes sont des militaires, les policiers pas du tout. Et donc on sait très bien qu'on ne sera pas forcément accueilli de la même manière. Donc en fait, ça regroupe sous un même département et on a les données différenciées police-gendarmerie, mais ça demanderait encore de retraiter tout ça et de retraiter ça en fonction des populations dans chaque département qui habitent dans des zones rurales ou des zones urbaines. Tenter que ces classifications colleraient exactement à la répartition entre police et gendarmerie. Bon, bref, là, on dépasse un peu de ce qu'on peut faire en termes de compétences et de temps de bénévolat. Continuons sur une autre limite. Une zone présentant peu de victimes ne signifie pas forcément qu'il n'y a pas de victimes. Pour être pris en compte, le crime ou délit doit être enregistré par les services de l'État. Donc il faut qu'il y ait plainte. Donc on y reviendra, c'est toute la thématique de la libération de la parole, entre guillemets, ou du taux de plainte pour quelqu'un qui a subi un abus sexuel sur mineur. Voilà. Dans quelle situation? Comment on y arrive? Est-ce qu'un enfant qui subit un abus sexuel va à un moment donné passer devant un gendarme ou un policier pour dire ce qu'il a vécu? Et donc ça, le pourcentage... voilà, comment estimer le nombre d'enfants totaux par rapport à la réalité de tous les enfants qui ont été abusés, par rapport à ce qu'on en voit, c'est-à-dire ceux qui vont finalement aboutir à une plainte. Voilà, et comment estimer le pourcentage de l'un par rapport à l'autre. Voilà. Sachant qu'effectivement, il y a des gens qui habitent dans certaines régions, par exemple, où il y a beaucoup de pédophilie, et qui disent oui, mais chez nous, c'est pas un tabou, c'est pas l'omerta, c'est pour ça qu'il y a beaucoup de plaintes, typiquement le nord de la France. Et puis des gens qui vont dire bah oui, ben en Corse, c'est l'omerta totale, tout ça est vrai, hein, mais dans quelle mesure? C'est l'omerta totale. Par exemple, il y a beaucoup de témoignages de jeunes filles qui sont violées, bon voilà, par exemple adolescentes, et qui disent j'ai préféré ne pas le dire dans ma famille ni aller porter plainte parce que moi, mon père, s'il le sait, il va aller tuer le garçon. Vous voyez? Et donc, il y a des systèmes comme ça culturels qui font que forcément, il y a des disparités régionales et que ce qu'on enregistre au niveau des services de l'ordre, des forces de l'ordre, eh bien, il y a aussi certainement des biais culturels, régionaux. Voilà. De même, une autre limite, les données ne recouvrent pas tout ce qui concerne le matériel audiovisuel pédopornographique et pédocriminel. Donc il n'y a pas d'index particulier en rapport avec la pédopornographie. Y a pas, on ne nous dit pas quand on n'a pas ces détails-là et c'est pas particulièrement signalé. Donc par exemple, quelqu'un qui se fera attraper pour possession de matériel pédopornographique, bah, ça tombe pas dans les cases viol ou agression sexuelle sur mineur, entre guillemets, puisque physiquement il n'y a pas de contact. En tout cas, pas de contact prouvé avec. Voilà. Dernière limite, les données ne recouvrent que les enfants officiellement présents sur le territoire français, c'est-à-dire les enfants avec un état civil. Des affaires témoignent de nombreux enfants étrangers ne parlant pas le français dans les réseaux, qui sont acheminés depuis d'autres pays afin de servir de chair à pédocriminels, de chair à canon pédocriminels, de manière moins risquée. Forcément, un enfant qui n'a pas de papier ne sera pas recherché de la même manière qu'un enfant qui soit a des parents, soit est dans les services sociaux, mais qui au moins a une existence en termes d'état civil réel. Voilà. On revient sur le nombre total par rapport au nombre pour 100 000 habitants. Donc, pour bien refixer les choses, donc le nombre total des actes, c'est vraiment une donnée qui permet de se rendre compte du nombre total réel de victimes, enfin de plaintes en tout cas, et de la localisation de l'essentiel de la pédocriminalité, où se situent en volume les victimes sur un territoire, par exemple, si on doit géographiquement les regarder. Et forcément, il y en a plus là où il y a plus de gens. Ça paraît logique. Mais quoique, on verra que dans certaines régions où il y a plus de gens, effectivement, il y a plus de viols sur mineurs, mais peut-être moins en proportion. Et donc, c'est pour ça qu'on regarde le nombre d'actes pour 100 000 habitants, qui est une donnée donc, qui permet de mettre en relief les zones, des zones peu peuplées, où il est constaté un nombre anormalement élevé de crimes. Voilà, parce que sinon, c'est trop facile. Tous les endroits où il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de viols. Et oui, mais il est possible qu'il y ait en proportion plus de viols dans une zone peu habitée que dans une zone très habitée. Et donc pour ça, on compare le nombre d'actes pour 100 000 habitants. Allons-y, statistiques sur la France entière. Donc la première chose est de se rendre compte du nombre énorme d'enfants victimes de la pédocriminalité en France, basé uniquement sur les cas connus des services de l'État. Ainsi, près de 10 000 enfants par an sont victimes d'agressions sexuelles, 25 par jour, et 6 000 enfants par an sont violés, 20 par jour. Il y a plus de viols sur mineurs en France que de viols sur les adultes. Faut quand même, ça mérite d'être répété, puisque vous entendez quand même pas mal parler, ou en tout cas à l'époque, je me souviens, dans les années 2014, 2015, 2016, on parlait beaucoup de violences conjugales, de viols sur adultes, etc. Alors qu'il y a plus de viols sur mineurs que de viols sur adultes chaque année. D'accord? Le nombre d'enfants victimes de meurtres par an est de 60 et nous paraît très sous-évalué, donc au vu des différentes affaires auxquelles nous sommes confrontés. Par exemple, dans la simple affaire d'Amy de Lisa dans le Var, les enfants témoignent à eux seuls de 18 meurtres d'enfants rituels. Donc vous imaginez que sur 2-3 réseaux en France qu'on découvrirait, on ferait péter toutes les statistiques de meurtres. De plus, les infanticides par les parents sont mélangés avec, par exemple, des assassinats rituels qui sont pour la plupart ignorés. Donc finalement, ça ne nous renseigne pas sur le contexte du meurtre d'enfant. Il faut comparer ce chiffre de 60 enfants victimes de meurtres par an avec les 1000 disparitions inquiétantes, suspectes et non élucidées de mineurs de 15 ans par an en France, soit 3 par jour. Imaginez s'il y avait des alertes enlèvement à la télé matin, midi et soir. Donc qu'est-ce qu'on appelle disparitions inquiétantes, suspectes et non élucidées de mineurs de 15 ans? C'est en fait qu'il y a environ 50 000 enfants qui disparaissent par an. Sur ces 50 000, il y a 49 000 enfants qu'on retrouve relativement rapidement. Souvent, ce sont des fugues qui se résolvent assez vite. Et puis, quand on laisse passer le temps, au bout d'un an, 2 ans, et quand on fait le différentiel entre ceux qui ont disparu et ceux qu'on a retrouvés, eh bien, il y en a 1 000 par an qu'on ne retrouve jamais. Alors, je veux bien, quand c'est quelqu'un qui a 15, 14 ans et demi, qu'on puisse imaginer qu'il est parti faire sa vie, qu'il s'est émancipé tout seul de sa famille, et que finalement, ce gars-là, il est adulte et ça va bien, etc. C'est juste qu'on n'a pas croisé les fichiers. Enfin bon, il faudra encore me prouver. Est-ce qu'on recherche réellement parmi les adultes les enfants disparus qui seraient devenus adultes à 18 ans? Je ne suis pas sûr. Et puis du coup, ça je veux bien encore l'imaginer pour un enfant de 14 ans et demi, et encore, on sait par les statistiques sur les études que énormément, je crois qu'au Canada c'était un tiers, en France je me souviens plus, mais énormément notamment de ces filles qui vont fuguer pour faire leur vie entre guillemets s'émanciper, finissent en fait dans les réseaux de prostitution très rapidement. Il y a des gens qui passent leur temps dans les gares, dans les lieux d'arrivée de ces gens dans les grandes villes, à recruter ces filles-là, à les repérer et à faire pareil, ce qu'on appelle du grooming, c'est-à-dire de leur faire des cadeaux, d'être gentil avec elles, de les apprivoiser entre guillemets, pour finalement après les rendre dépendantes à la drogue et les prostituer matin, midi et soir. Voilà. On le verra ça dans un autre podcast. Il y aura un autre podcast qui sera fait sur les études de victimation, où là on va s'intéresser beaucoup plus à le phénomène pédocriminel en soi, ce qu'il recouvre, ses caractéristiques, à quel âge ça commence, etc., etc. Voilà. Donc là, on reste vraiment dans ce podcast sur les statistiques de l'État, le gros schéma vu de loin. Je ferai un autre podcast sur les différentes études de victimation. Donc on demande aux gens qu'est-ce qu'ils ont subi dans leur vie et on leur demande un peu plus en détail à quel âge, comment, par qui, etc. Voilà, mais donc, moi je veux bien ça pour les gens qui ont 14 ans et demi, mais quand une petite fille de 7 ans disparaît et qu'elle n'est jamais retrouvée, faut pas venir me raconter qu'elle a fait sa vie. Cet enfant-là, a priori, elle a fini sous terre. Voilà. Et il y en a 1 000 par an. Mais je veux bien qu'on me prouve le contraire. Pareil, autre chose, nous ne disposons pas de statistiques pour les dom-toms couvrant la période complète 96-2014. Du coup, à la suite, on va regarder un autre podcast, un autre article, où justement, sur la période 2009-2014, on a des données sur les dom-toms et on va pouvoir en parler plus précisément. Voilà, dans cet article. On va rester sur la France métropolitaine pour la majorité. Donc là, vous avez un petit tableau avec donc les chiffres. Donc vous voyez un peu en proportion, et ça c'est relativement respecté même par la suite. On est à peu près donc là pour toute la période 105 000 viols sur mineurs et 177 000 agressions sexuelles sur mineurs. Donc par an, 5 500 et 9 000. En 2014, on s'aperçoit que ce chiffre est déjà plus au-dessus, donc on est passé à 6 500 viols et 11 500 agressions sexuelles. Globalement, depuis 1996, le nombre d'enfants victimes est en forte augmentation et encore plus depuis ces dernières années. Donc, on verra tout à l'heure l'article sur 2009-2014. Si on prend le volume total sur la France métropolitaine, pour les violences, mauvais traitements et abandons d'enfants, sur la période 1996-2014, on est à plus 400%, on a multiplié par 4. Pour les agressions sexuelles, on est à plus 63%. Pour les viols, on est à plus 50%. Si on prend les chiffres pour 100 000 habitants, pour essayer de s'en rendre compte un peu, en tenant compte donc de l'augmentation démographique, puisque évidemment on peut dire, ben oui, mais ça augmente, mais c'est logique, puisqu'il y a de plus en plus d'habitants en France. Oui, mais non. Alors, un petit peu, mais dans une certaine mesure. Donc, si on restandardise ces chiffres en fonction de l'augmentation globale de la population française, on se retrouve à 365% d'augmentation des violences et des mauvais traitements d'abandon sur enfants, 47% pour les harcèlements et les agressions sexuelles, et 36% pour les viols sur mineurs. Alors, ce chiffre a été rapporté par rapport aux pyramides des âges, hein, c'est-à-dire que on regarde combien on a de mineurs de 15 ans. Évidemment, c'est pas, je vous ai dit la population totale, mais non, enfin, c'est l'augmentation démographique des cohortes, c'est-à-dire des Français déclarés à l'état civil qui sont nés, qui sont vivants, entre 0 et 15 ans. Et on compare ces cohortes-là, évidemment. Donc cela est très alarmant et nous faisons les hypothèses de la misère provoquée par la crise économique financière et de l'hypersexualisation des enfants dans les médias qui deviennent des objets sexuels comme les autres, tendant inconsciemment à lever le tabou de l'inceste et de la pédocriminalité. Donc ça, ce sont des hypothèses qu'on fait par le terrain qu'on pratique et les cas qu'on rencontre et les histoires qu'on entend. Et bah, notamment, vous voyez la banalisation qui a continué de la pornographie. Et peut-être que vous n'êtes pas allé souvent sur des sites comme ça. Néanmoins, il est extrêmement clair que sur des sites entre guillemets légaux de pornographie pour les majeurs, il est extrêmement facile de voir qu'il y a des catégories teenagers, des catégories enfin qui vont sur la jeunesse et des liens qui vont très rapidement en un ou deux liens vous amener sur de la pédopornographie gratuite, en grande quantité, etc. Donc forcément. Ce phénomène-là fait que des gens qui n'auraient pas forcément au départ eu d'appétence particulière pour des viols d'enfants, finalement, par le fait de regarder des filles de plus en plus jeunes, entre guillemets, un peu adolescentes, puis finalement préadolescentes, et puis finalement ils se retrouvent à se masturber sur des films où on viole des filles de 8 ans. Voilà. Mais bon, ça c'est une excuse un peu limite aussi, parce que les gens savent bien trouver ce qu'ils veulent. Donc là, le graphique des évolutions des crimes, donc pour 96-2014. Alors vous voyez que les violences, mauvais traitements, abandons sont beaucoup plus nombreux, donc forcément ça écrase un peu le graphique. Néanmoins, voilà, on peut se rendre compte que c'est en augmentation, en relative stagnation sur l'ensemble de la période, et puis en augmentation depuis 2011, quand même, où il y a une nette augmentation des choses. Pareil pour le graphique pour 100 000 habitants. Voilà, où on se rend compte qu'il n'y avait pas énormément de grosses différences depuis 96 jusqu'à effectivement à partir de 2011, où on voit quelque chose d'assez notable se dégager. Des statistiques par région. En nombre total, ce sont logiquement donc les régions les plus peuplées qui représentent le plus de victimes. Ceci recoupe nos données également pour les juges et les magistrats corrompus, où on va forcément voir des régions qui sont un petit peu suspectes, on va dire, où il y a des réseaux, où il y a des soucis, où il y a de la corruption, où il y a beaucoup de choses comme ça. Donc région Nord, Île-de-France, PACA, Rhône-Alpes. À ça, on pourrait rajouter Toulouse. Enfin voilà, il y a forcément, comment dire, une concentration de choses dans les grandes villes qui n'existent pas forcément dans les campagnes. Parce qu'on peut se cacher, il y a du pouvoir, il y a de l'argent, il y a plein de choses dans les villes qu'on trouve, qu'on ne trouve pas dans la campagne et qui permettent un peu plus de faciliter ces choses-là. Cependant, il est également plus facile de se procurer donc des enfants dans des zones fortement peuplées que dans des déserts démographiques ruraux où effectivement tout se sait. Ce qui n'empêche pas qu'il y a des choses terribles aussi dans les campagnes. Néanmoins, il y a forcément, comment dire, des zones de concentration de gens pauvres d'endroits où c'est plus facile d'aller enlever un enfant sans que ça se voie. Ou voilà, ça paraît logique. La relation entre la pédocriminalité et la démographie est loin d'être directe et des régions relativement peu peuplées peuvent présenter des chiffres faibles, par exemple, relativement peuplées peuvent présenter des chiffres faibles, Poitou, Centre, région Bretagne. De plus, la pédocriminalité de réseau est très chère et s'adresse à des populations richissimes qui se trouvent principalement dans les grandes villes. Elle peut aussi avoir lieu dans des départements proches des grandes villes ou de villégiatures, pour des raisons de discrétion et de confort des pédocriminels, autour de Paris, de Lyon, la Côte d'Azur, la Normandie, les Pays de Loire. Donc ils sont Normandie et Pays de Loire, les maires, entre guillemets, les plus proches de Paris. Il faut signaler, alors, par exemple, on peut citer le réseau Zandvoort, où effectivement le réseau pédocriminel était dans la ville balnéaire de Amsterdam. Voilà, vous allez à l'ouest d'Amsterdam, au plus court à la mer, vous arrivez à la plage, c'est Zandvoort. Et c'est là qu'il y avait un énorme réseau de pédopornographie, comme par hasard. Effectivement, on imagine que les clients d'Amsterdam avaient des résidences secondaires à Zandvoort et pratiquaient ces choses-là là-bas, le week-end, etc., un peu à l'écart de leur famille, etc. Il faut signaler tout de même les incroyables chiffres donc de la région Nord-Pas-de-Calais qui mérite bien sa réputation de pédoland associée à la Belgique juste à côté. Vous avez là donc un tableau du top 10 des régions en volume brut. Effectivement, et c'est logique de retrouver les régions les plus peuplées en premier. Pareil, on voit un graphique en dessous de l'évolution du top 6 des régions en volume brut de 1996 à 2014. Là, on voit quand même que sur la fin, on a quand même des augmentations importantes en volume, et c'est pas lié à des. Là, par exemple, Île-de-France, on passe de 4 000 à 6 000. Évidemment, le nombre d'habitants en Île-de-France n'a pas augmenté de 50% en un an. Voici. Vous avez un autre graphique avec les agressions sexuelles, avec pareil, la liste des régions, et puis vous avez en dessous, donc ce graphique qui est plus intéressant, ce sont les viols sur mineurs, mais pour 100 000 habitants. Et c'est là justement où se révèlent un petit peu les choses, c'est que, vous voyez, c'est pas forcément Paris qui est en premier, loin de là, hein. On est sur Pays de Loire. Alors, si quelqu'un a une explication, pardon. Pays de Loire en premier, suivi de Picardie, suivi de Champagne-Ardenne, voilà, le Nord-Pas-de-Calais qui, malgré le fait que c'est très peuplé, reste quand même en proportion très élevée. Et puis voilà, on va citer les autres par principe, Haute-Normandie, PACA, Franche-Comté, Basse-Normandie, Bourgogne. Là, moi je vois ça, je suis policier, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe en Pays de Loire? Comment c'est possible que mes chiffres sont amenés à augmenter énormément en si peu de temps? Est-ce que c'est lié à un pouvoir politique qui laisse faire ça? Est-ce que c'est lié à une campagne de sensibilisation qui fait que beaucoup plus de gens vont être bien accueillis dans les commissariats? Est-ce que c'est lié, voilà, on peut se poser toutes les questions, faire des hypothèses dans un sens ou dans l'autre. Voilà, donc le top 10 des régions pour 100 000 habitants, vous l'avez ici. Vous mettez sur pause à chaque fois, hein, je suis désolé, au montage, je vais faire assez rapide. Le graphique du top 6 pour 100 000 habitants, donc des violences et mauvais traitements, on retrouve encore Pays de Loire, Nord-Pas-de-Calais, Champagne-Ardenne, PACA, toujours un petit peu quand même les mêmes choses, hein. Harcèlement sexuel et autres agressions sexuelles, donc pareil, toujours Pays de Loire. Vous voyez que c'est consistant, hein, sur viol, agression, sur les différents types de délits, c'est consistant, on retrouve les mêmes régions. Et donc. Des régions, donc Pays de Loire, on ne sait pas pourquoi, et puis des régions finalement Champagne-Ardenne, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, qui se rapprochent de la frontière belge aussi. On sait très bien que la Hollande est un épicentre, la Belgique aussi, et en fait toute cette région qui englobe le nord de la France. Statistiques par département. Donc maintenant, au-delà des régions, on peut essayer de zoomer encore un petit peu, et voir un petit peu ce qui en retourne pour les départements. Donc en nombre total, et pour les mêmes raisons que citées précédemment, ce sont donc les départements avec une agglomération urbaine importante qui présentent le plus d'enfants victimes, en nombre brut. On confirme donc les mêmes zones, Nord, Île-de-France, Rhône-Alpes, PACA. Le nombre de victimes pour 100 000 habitants nous montre des départements particulièrement touchés et qui rivalisent en proportion avec des zones très peuplées. Donc c'est là que ça devient intéressant. Puisque au sein d'une même région, il y a, par exemple, dans une même région, on peut avoir un département où il y a une grosse ville, un département où il n'y en a pas, et donc on peut mettre en relief comme ça des départements étranges. Donc, des départements très peuplés avec une pédocriminalité relative constatée élevée, donc par exemple le Nord, le Pas-de-Calais, la Seine-Saint-Denis, les Yvelines, Seine-et-Marne, Val d'Oise, Val de-Marne, Rhône, donc ça c'est plutôt des zones périurbaines. Et puis aussi des zones très peu peuplées, mais où pareil, on a quasiment les mêmes taux pour 100 000 habitants d'abus sexuels sur mineurs. La Marne, l'Aube, l'Aisne, Lyonne, réseau du trou, le Doubs, Seine-Maritime, Somme, Meuse, Meurthe-et-Moselle, Calvados, Eure, territoire de Belfort. Vous voyez qu'il y a des choses qui ne viendraient pas à l'esprit intuitivement. Voici, je vous mets les classements, le top 20 des départements sur toute cette période. Hein, donc c'est vraiment, on gomme les faits annuels, on gomme beaucoup de choses. Hein, c'est vraiment des volumes énormes de crimes et de délits. Hein. Donc le top 20 en volume brut, et puis pour les différents délits et crimes, et le top 20 pour 100 000 habitants. Donc forcément, c'est celui pour 100 000 habitants qui est le plus intéressant à regarder. Donc on a aussi essayé de faire des cartes par département. L'observation des cartes et la comparaison des valeurs montrent une concentration plus importante dans le quart nord-est du pays, et plus précisément entre Paris et la Belgique, comprenant la Normandie. Les cartes sont présentées dans l'ordre suivant, donc des différents délits comme tout à l'heure, d'abord violence abandon, puis agression sexuelle, puis viol, puis homicide. Et à chaque fois, on a la carte totale, puis la carte pour 100 000 habitants. Donc, au niveau des violences, des mauvais traitements et des abandons, ça reflète des zones où se situent des populations d'enfants vulnérables et potentiellement à la merci des pédocriminels. En effet, la pédocriminalité se pratique plus facilement sur des enfants que personne ne cherchera ou que personne ne protège. Donc, on ne va pas particulièrement contempler cette carte longtemps, mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que eh ben, certains départements ressortent. Vous voyez? Alors, pour 100 000 habitants, on voit que c'est plus intéressant parce que les départements qui ressortent dans les volumes bruts, bah forcément, c'est Lyon, c'est Bordeaux, c'est Nantes, c'est Marseille, c'est Strasbourg, enfin, vous voyez, c'est les grandes villes, quoi. Bizarrement, Toulouse ne ressort pas. Et puis, quand on remet pour 100 000 habitants, alors là, on voit quelque chose de beaucoup plus clair en termes de phénomène pédocriminel, c'est-à-dire il y a vraiment une diagonale. En haut à, qui va on va dire, du nord-ouest, en haut à gauche, en bas à droite, au sud-est, et qui passe par Paris et sa région, et qui remonte vers la Belgique, et c'est vraiment là que se concentre, et on est sur quand même des densités qui sont multipliées par deux par rapport à des territoires ruraux, entre guillemets, normaux, quoi. Donc ça, c'est pour les abandons. On va s'intéresser aux agressions, on va constater à peu près la même chose. Néanmoins, quand on est pour 100 000 habitants, à peu près la même chose. Et puis, par exemple, sur les viols, eh ben, on va constater qu'il y a un département de mémoire, c'est l'Ariège. On ne sait pas pourquoi, il y a autant de viols sur mineurs en Ariège que dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors que ça n'a rien à voir, qu'il n'y a aucun département à côté qui sont pareils. Donc là, on peut vraiment se poser des questions. Pourquoi l'Ariège? Alors c'est un département qui est réputé un peu alternatif, un peu avec des sectes, un peu tout ça. Bon, est-ce que c'est lié? Est-ce que ce sont les gens d'Espagne qui passent par Perpignan? Les gens de Perpignan, on sait qu'il y a pas mal de réseaux sur toute la côte entre Montpellier, enfin toute la côte méditerranéenne, grosso modo, tout le PACA, mais également Montpellier jusqu'à Perpignan. Bon, voilà, on peut faire différentes hypothèses, c'est difficile de le savoir. En ce qui concerne les homicides, bon, vous voyez que c'est beaucoup plus distribué de manière homogène sur le territoire. Puis comme je vous dis, c'est des petits chiffres. C'est quand même assez difficile à expliquer pourquoi dans tel département il y aurait. Voilà, on ne voit pas de tendance régionale qui se dégage particulièrement. Il est évident que les données plus détaillées en termes de catégories de crimes et de délits et de localisation, notamment par commune, nous permettraient de cerner de manière plus fine le phénomène pédocriminel et de différencier la pédocriminalité dite domestique de la pédocriminalité dite externe, faisant intervenir des membres extérieurs à la famille, que cela soit par des prédateurs isolés ou des réseaux pédocriminels organisés de type mafieux. Donc ça, c'est des demandes qu'on a faites. Là même récemment, on a demandé les enfants disparus, notamment par commune. Le ministère de l'Intérieur nous a répondu qu'il n'avait pas ces données. On a saisi la CADA, donc la commission pour faire sortir des données publiques qui ne veulent pas nous donner. On verra ce que ça donne. De la même manière, vous verrez qu'à la fin, plusieurs années plus tard, on a eu ces chiffres justement sur pédocriminalité entre guillemets domestique, inceste et puis externe à la famille. On nous dit tout le temps que bah c'est quasiment que de l'inceste. En gros, c'est l'image d'Épinal, quoi. Un enfant violé, c'est forcément une famille de cassos, un papa qui viole sa fillette. Oui, bah non. Bah non, pas du tout. On le verra tout à l'heure. Mais on est très très loin de cela. Donc je vous spoil un peu le truc, mais en intrafamilial, on est à 30% seulement. Vous voyez? et à 50% avec le cercle familial élargi. Mais enfin, cercle familial élargi, une fois que vous avez mis les amis, la famille, bah oui, c'est un peu 90% des gens que l'enfant rencontre. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte, ça veut dire qu'il y a la moitié des abus sexuels sur mineurs qui sont faits par des gens qu'elle n'a jamais vus. Ou qu'elle voit une fois dans une fête, etc. Et c'est un peu logique aussi. C'est-à-dire que si vous voulez prédater un enfant, eh ben, vous allez faire en sorte que ça soit pas dans votre entourage direct pour pas se faire choper, quoi. Un endroit un peu exceptionnel, en vacances, dans une fête, chez quelqu'un, loin de chez soi, et puis que finalement ça se voit pas, ou c'est pas quelqu'un de votre club de foot, mais ça sera un enfant, lors d'une rencontre entre différents clubs de foot, ça sera un enfant de l'autre club, comme ça quand vous rentrerez chez vous, les colos, etc. Voilà, tous les endroits inhabituels. Donc on fait un appel à toute personne susceptible de nous fournir ces données plus précises et de nous aider à nous les procurer. Évidemment, depuis 2015, personne, ni même à l'intérieur des services ou quoi que ce soit, ne nous a contactés, ni l'INHESJ qu'on avait essayé de contacter par téléphone et par mail ne nous a répondu. Personne ne nous a répondu pour essayer de nous donner ces données. On n'a pas de contact avec des députés particulièrement. Aucun député n'a souhaité entrer en contact avec nous, même si on les a tous sollicités par courrier, tous les sénateurs, tous les députés, lors d'une manifestation devant le Sénat. Voilà, c'est très difficile. Un député serait une bonne manière d'avoir ces chiffres, parce que lui, quand il demande à un ministère des chiffres, a priori, on met quelqu'un sur le dossier pour lui faire et lui donner. Voilà, mais nous n'avons pas ces connexions-là. Sachant que nous, on est allé rencontrer même personnellement des députés de nos territoires pour les sensibiliser, pour essayer d'avoir ces chiffres, il n'en est jamais rien sorti. En conclusion, nous vous invitons à fouiller les données brutes fournies ci-dessous. Alors, je les ai enlevées de l'article parce que c'était un peu galère avec le Excel, mais je vous les remettrai peut-être d'ailleurs, afin de vous rendre compte par vous-même des chiffres et des proportions, que cela soit dans votre département ou ailleurs. Cependant, nous tenons à préciser que nous ne sommes pas dupes des chiffres officiels. Par exemple, ce n'est pas parce que la région Nord recense plus de crimes que la région PACA, que nous connaissons extrêmement bien, que cela reflète la réalité. Ainsi, l'omerta et les tabous qui touchent certaines régions, comme la région PACA, est immense, et les dossiers sont systématiquement étouffés. Et la corruption, évidemment. Corruption à haut niveau. On parle de magistrats, on parle de préfets, on parle de services de police, on parle... Par exemple, dans le Var, c'est terrible, c'est terrible. Ce département est un autre monde. Ainsi, l'omerta et les tabous qui touchent certaines régions, oui, ça j'ai déjà dit. Les affaires qui sont classées sans suite, qui aboutissent à un non-lieu, qui tournent en dénonciation calomnieuse et en dénonciation de faits imaginaires, sont très nombreuses. Voilà, on a des modes, entre guillemets, départementales ou par rapport à un tribunal précisément, où ces choses ont l'habitude de se faire, des choses qu'on ne verrait jamais dans un autre tribunal, d'un autre département où c'est pas le cas. Voilà, je citerai Draguignan, Aix-en-Provence, pour ne pas les citer. Ces états de fait tendent à détourner le regard de ces régions riches et à pointer du doigt des régions pauvres comme le Nord ou les DOM, par exemple. Voilà pour cet article entre 1996 et 2014. On va passer donc, comme promis, à l'analyse des chiffres de 2009-2014, notamment pour faire un point plus particulier sur les DOM-TOM, où là on a des données continues sur ces 5 années. Du coup, la première carte qui est pour moi la plus parlante, donc la répartition des viols sur mineurs pour 100 000 habitants. Donc on voit toujours effectivement, alors regardez toujours bien les légendes, parce qu'en fait on fait des légendes pour essayer de faire des classes de couleurs qui soient visuelles, mais c'est pas forcément, elles sont relatives au jeu de données. Donc, il faut les comparer avec les chiffres. Vous voyez, je ne fais pas tout le temps les mêmes classes. Rouge, orange, jaune, ce n'est pas tout le temps les mêmes chiffres. D'accord? Donc, on est bien classe rouge entre 100 et 200 viols sur mineurs pour 100 000 habitants par an en moyenne entre 2009 et 2014. Donc, ce qui est intéressant, c'est qu'en haut à droite de cette carte, vous avez les chiffres pour les DOM-TOM, notamment les DOM. Donc, et les tomes, c'est très difficile d'avoir des chiffres, puisque ce sont des territoires, entre guillemets, qui font pas tout à fait partie de la République, ou en tout cas pas avec les mêmes structures de gendarmerie, etc. Donc, tout ce qui est ce qu'on appelle aujourd'hui les POM, c'est-à-dire les pays d'outre-mer, dans ce qui est Tahiti, Calédonie, etc., là, il faut avoir des études, qui sont uniquement ciblées sur ces territoires. Et c'est donc moins facile, on n'a pas de quoi comparer les données avec ces territoires. Mais on va quand même se rendre compte. Effectivement, donc vous voyez l'échelle de couleurs, orange 70 à 100, donc on voit que La Réunion 96, on est déjà dans le haut du orange, limite rouge, La Réunion 97, Martinique 107, Guyane 205. Donc en gros, là, avec la carte que j'ai faite, il n'y a aucun département français de France métropolitaine qui n'est au niveau de la Guyane et de la Martinique. C'est une catastrophe, les viols sur mineurs dans les dom-toms. La Réunion à Guadeloupe, on est à des niveaux qui sont au maximum de ce qu'on peut voir en France métropolitaine, c'est-à-dire Nord-Pas-de-Calais, etc. Ok? Alors, je ne vais pas vous répéter les origines des données, les limites des données étudiées, parce que c'était la même chose que dans l'article d'avant. On va prendre directement donc, les statistiques France entière pour 2009-2014. Du coup, là, on est sur des volumes globaux de 58 000 agressions sexuelles et 36 000 viols sur mineurs, ce qui revient à environ, donc effectivement, comme on est à la fin de la période. C'est 2009-2014, c'est la fin de la période qu'on a étudiée précédemment, donc on est un peu plus haut. 6 000 viols sur mineurs par an et quasiment 10 000 par an agressions sexuelles. Alors, en détaillant un peu plus ces chiffres, on se rend compte que les départements d'outre-mer, donc les DOM, Martinique, Guadeloupe, Guyane, Réunion, semblent souffrir d'une pédocriminalité plus importante qu'en métropole, notamment en ce qui concerne les viols sur mineurs qui sont doublés. 20 pour 100 000 habitants dans les DOM contre environ 10 pour 100 000 habitants en métropole. Nous ne disposons pas de statistiques sur les autres territoires français d'outre-mer, Polynésie française, donc Tahiti et Wallis et Futuna, Saint-Pierre et Miquelon, Mayotte, Saint-Martin, Saint-Barthélemy, qui passent donc sous le radar, et Nouvelle-Calédonie, que j'ai oublié de mettre là. Alors on peut faire plusieurs hypothèses. C'est vrai qu'il y a un phénomène en France qui est assez important de correctionnalisation des viols. C'est-à-dire que, parce qu'effectivement, on a beaucoup plus de viols sur mineurs dans les dom-toms et au niveau des agressions, c'est pas aussi net. En France, on a tendance à faire passer les viols pour des agressions. Et donc forcément, ça se ressent sur les chiffres. Alors que c'est vrai que d'expérience, par la revue de presse, quand on regarde les articles de presse sur les affaires d'abus sexuels sur mineurs, par exemple à Tahiti, en Calédonie ou dans les dom-toms, il semblerait que dans ces endroits-là, il n'y ait pas de demi-mesure et les mecs prennent cher. Et effectivement, les peines sont bien plus importantes, en tout cas c'est le ressenti qu'on a, on n'a pas de chiffres attestés là-dessus, mais on a l'impression que quand il s'agit, on va dire, de la justice dans les dom-toms pour des accusés martiniquais, guadeloupéens, entre guillemets, de couleur, voilà, ou pas, mais bon, forcément, y en a pas mal aussi, et bien là, la justice, bam, elle leur tombe sur le dos, elle leur met le max, et il n'y a pas d'histoire d'avocat, de pleurniche, de correctionnalisation, ou de circonstances atténuantes, blablabli, blablablou. Comme c'est le cas en France métropolitaine. Alors on peut dire que c'est une histoire de culture, on peut s'en réjouir parce que finalement, peut-être qu'on aimerait bien avoir en France métropolitaine la justice telle qu'elle est appliquée dans les dom-toms, finalement, hein, on peut se dire ça aussi, mais ça reste une hypothèse. Voilà. Donc là, on a un tableau comparatif où on reprend les moyennes pour 100 000 habitants, donc c'est les trois, la colonne ici, la quatrième colonne et la dernière. Donc on voit que pour violence, mauvais traitement, abandon, bah on a à peu près des niveaux équivalents. Les agressions également, 15 et 19 dans les dom-toms, donc c'est plus important mais pas tant que ça. Et par contre, effectivement, les viols sur mineurs, on est au double. Voilà. Les infanticides, on est voisins. Tout est un peu supérieur mais pas de beaucoup. Mais par contre, les viols sur mineurs, c'est complètement le double, plus du double. Globalement, depuis le 2019, 2010, 2009, pardon. Le nombre d'enfants victimes est en forte augmentation, donc 95% pour les violences, 40% pour les agressions, 20% pour les viols. Ceci est très alarmant et nous faisons les hypothèses effectivement qu'on a fait dans l'article précédent. Donc vous voyez le même tableau. Et là, ce que je vais faire, c'est je vous mets rapidement les mêmes tableaux, mais au lieu que ce soit la période 96-2014, c'est la période 2009-2014. Donc je vous les mets rapidement, vous faites pause si vous voulez vous y intéresser, le tableau par région, le tableau par département, les différentes cartes, brut pour 100 000 habitants, des différents délits et crimes. On va faire un petit stop sur la carte pour 100 000 habitants des agressions sexuelles, où comme vous pouvez vous en rendre compte, bah, effectivement, seule la Guyane rivalise avec le Pas-de-Calais. Et seule La Réunion rivalise avec le Nord et quelques autres départements comme l'Yonne et des coins effectivement de la Picardie et de Normandie, etc. Mais vous voyez qu'on est toujours vraiment dans le très haut au niveau des statistiques des dom-toms. On va ici regarder les viols. C'est la première carte que je vous ai décrite, donc on va passer rapidement. Et donc nous voilà arrivés en 2015, où on a donc des nouvelles statistiques qui sortent une fois qu'on avait fait ce bilan. Et donc en 2015, on constate que l'explosion de la pédocriminalité continue d'augmenter. On passe sur les agressions sexuelles de 11 500 à 12 500. Les chiffres sont absolument effrayants, avec des hausses entre 10% et 40% en une seule année sur des régions entières. Donc quelques chiffres, donc plus 50% d'agressions sexuelles et plus 25% de viols sur mineurs en France depuis 2011. Donc là, si on prend la période 2011-2015, en l'espace de 4 ans, il y a vraiment un décollage de ces chiffres. Les violences sur mineurs ont doublé en Île-de-France, en Nord-Pas-de-Calais et en PACA en l'espace de 2 ans. Depuis 2011, les agressions sexuelles sur mineurs ont doublé en Languedoc-Roussillon, en Normandie, en Aquitaine, en Picardie, en Bourgogne, en Pays de Loire. Et il faut s'attarder sur la région Pays de Loire. En l'espace de 10 ans, les crimes pour 100 000 habitants sont montés en flèche. On atteint des chiffres équivalents au Nord-Pas-de-Calais pour les violences. 50% en plus d'agressions sexuelles sur mineurs, en plus que n'importe quelle autre région de France. Et deux fois plus d'enfants violés que dans n'importe quelle autre région de France, hors la Guyane. Il faut quand même rappeler donc que des études concordantes, je vous renvoie au podcast sur les études de victimation, estiment que seulement 10% des violences sexuelles sur mineurs donnent lieu à une plainte. Ce qui veut dire, donc suivant les études, il y a des études qui disent 8%, les études vraiment, mais il n'y en a que quelques-unes, donnent 12%, mais grosso modo, on est plutôt autour de 8 de manière plutôt consistante, et si on vous voulait être, on va dire, très prudent, vous pouvez prendre le chiffre de 10%. Comment on atteint ces chiffres? Ben, on demande à des gens tirés au hasard, qu'est-ce que vous avez eu comme délits et crimes dans votre vie? Ceux qui disent qu'ils ont été abusés dans l'enfance, et tout le monde ne le dit pas, même si c'est anonyme, etc., on leur dit, est-ce que vous avez porté plainte? Et on voit le taux de gens qui ont subi des choses et qui ont porté plainte. Et donc, à chaque fois, on trouve à peu près entre 8 et 10%. Donc, il y a 1 000 disparitions inquiétantes et non élucidées de mineurs par an. Et il y a également un truc dont je ne vous ai pas encore parlé. Il y a 2 000 cadavres qui sont enterrés sous X chaque année en France et aucun chiffre ne sont disponibles sur la proportion de mineurs. C'est-à-dire que n'importe qui creuse un peu la terre, on veut faire une maison, on veut faire je sais pas quoi, on trouve des cadavres enterrés et on ne sait pas qui c'est. On n'arrive pas à l'identifier, soi-disant. Alors maintenant, on voit avec l'ADN, les dents, les dentitions, etc., on devrait quand même pouvoir les identifier. Mais ça fait quand même 2 000 personnes par an qui sont enterrées, entre guillemets, ce qu'on appelle sous X. Donc c'est-à-dire qu'on c'est un cadavre, on ne sait pas qui c'est, on l'enterre, et voilà, et on se doute que c'est des gens qui ont disparu avant, mais on ne peut pas faire le lien, soi-disant. Ces cadavres, ben quand même, il suffit de regarder la taille du cadavre, des os, ou même les dentitions, pour ça, si c'est des dents de lait ou des dents définitives, etc. C'est très facile de donner un âge à un cadavre quand il est à peu près en état de entier, on va dire, qu'il n'a pas été complètement mélangé, etc., ce qui est le cas la plupart du temps. Et on est tout à fait capable de dire combien il y a d'enfants parmi ces enterrés sous X. Eh bien, cette donnée n'est pas disponible. Voilà. On n'a jamais vu ce chiffre nulle part, même quand les députés ont demandé à peu près des choses avoisinantes sur les disparus, etc. Ça n'intéresse personne. Aucun journaliste, jamais. Voilà. Si vous avez la moindre source, même pas le moindre article de presse mainstream qui parle de ces enterrés sous X et qui se pose la question de savoir combien il y a de mineurs, rien que ça, je vous mets au défi. Nous, on veut bien le lire. On est chaud pour avoir ça. Donc ces données tendent à mettre de côté les chiffres étrangement bas des homicides, donc 75 pour toute la France en 2015. Sur ces bases statistiques, donc si on remet tout ensemble, depuis 20 ans, 111 000 enfants ont été violés, soit une estimation de 1 110 000 enfants présumés violés, donc en prenant 10%, ce qui, je vous le dis, est prudent, en comparant avec la cohorte moyenne des enfants de moins de 18 ans, qui est donc sur la période de 14 375 000 enfants de moins de 18 ans, ça veut dire qu'il y a un enfant sur 13 qui a été violé. D'accord? Vous voyez le calcul, comment il est fait. Ça fait 3 par classe. C'est une classe de 30 enfants, on va dire entre 2 et 3 par classe. Et ces chiffres-là ont bien augmenté depuis 2015, hein. Aujourd'hui, on est à beaucoup plus. Donc les statistiques en 2015, au niveau national, donc les violences plus 18%, 100 par jour, les agressions sexuelles plus 7%, 33 par jour, les viols plus 4%, 19 par jour, on est bien sur des moins de 15 ans là, hein, pas les moins de 18 ans. Et 36% pour les meurtres, mais bon, comme je vous dis, c'est très erratique, ce sont des petits chiffres. Quand on parle de 19 enfants violés par jour, cela signifie que 19 enfants qui ne l'ont jamais été auparavant, ou au moins une fois. En effet, les statistiques ne montrent pas le nombre d'actes qui se sont souvent répétés pendant des années sur un même enfant. D'accord? On ne sait pas si cet enfant, il a été chopé, je ne sais pas, moi, dans un parc ou par un ami de la famille, dans une fête, une fois, une soirée, ou si, effectivement, c'est quelque chose de répété avec l'entraîneur de foot qui s'est répété pendant des années et pendant 2-3 ans d'affilée et qui recouvre 180 viols. D'accord? Tout ça compte pour un, quelle que soit la situation. Un enfant violé tous les jours pendant 10 ans compte pour un, comme un enfant violé une unique fois. Donc là, on voit des graphiques de l'augmentation, voilà, avec les chiffres actualisés de 2015. On voit que ça suit la courbe en fait, c'est-à-dire que la dynamique qui a commencé en 2011 se prolonge de manière tout à fait linéaire entre 2011 et 2015 et n'arrête pas d'augmenter à un rythme absolument effarant. Au niveau régional, on retrouve un petit peu, donc je vais passer vite, mais les mêmes régions que d'habitude: Pays de Loire, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, PACA. Pour les violences, agression Pays de Loire, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Haute-Normandie. Pour les viols, Pays de Loire, Haute-Normandie, Nord-Pas-de-Calais, Picardie, PACA, etc. Je vous laisse aller voir les détails si vous le souhaitez dans les articles écrits. Les régions où la pédocriminalité a le plus augmenté en 2015. Donc il semblerait par exemple qu'on commence à prendre en compte les plaintes en Corse. Et donc là, effectivement, on peut se dire peut-être qu'il y a une certaine libération de la parole en Corse. Typiquement, quand on prend plus 40% en un an sur les agressions sexuelles, ou plus 74% en un an sur les viols, peut-être qu'il y a une prise de conscience par la population corse qu'il faut que ça suffise, l'omerta, sur ces sujets-là. Voilà. Est-ce qu'il y a eu une campagne de sensibilisation? Est-ce qu'il y a eu des choses par la presse régionale et qui ont été faites? Je ne sais pas. Mais en tout cas, on peut se demander, c'est intéressant de se rendre compte de ça. On a donc sur les viols sur mineurs, la Corse plus 74%, la Franche-Comté plus 40%, et entre 10 et 20% d'augmentation pour l'Alsace, l'Île-de-France et PACA. Au niveau départemental, bon, je vous passe, mais en gros, on rencontre encore les mêmes départements et des augmentations voilà, dans ces départements. Le département où la pédocriminalité a le plus augmenté en 2015, donc on va aller directement sur les viols, Haute-Corse, Alpes-de-Provence, Jura. Suivi de Haute-Saône, Haute-Pyrénées, Mayenne, Cher, Ariège, Gers, puis Tarn-et-Garonne, Essonne, Côte d'Armor, Bouches-du-Rhône, Val-de-Marne, Seine-Saint-Denis, Eure, Haute-Seine, Drôme, Bas-Rhin, Isère, Manche, Lozère, Calvados. Alors, sachant que on est quand même sûr, il y a des endroits, c'est hallucinant, on double les choses, hein. Qu'est-ce qui se passe dans les Alpes de Haute-Provence en un an? Plus 125% de viols sur mineurs. Je ne sais pas. En Outre-mer, la Guyane est toujours dans une situation grave, similaire au Pas-de-Calais en termes de violence, et le double de n'importe quel autre territoire en termes de viol. Quatre fois la moyenne nationale. Les viols d'enfants sont une plaie terrible dans les quatre DOM, donc Guyane, Guadeloupe, Martinique, Réunion. Quand la moyenne nationale est à 11 enfants violés pour 100 000 habitants, en Guyane on est à 40, Guadeloupe 20, Martinique 18, Réunion 17. C'est vraiment au-dessus. Alors, on a cherché un petit peu en 2015 pour les autres territoires d'outre-mer. Donc, il y a quelques chiffres disponibles un petit peu dans la presse, notamment donc en 2012 en Polynésie, il est fait état de 53 viols sur mineurs pour l'année, ce qui revient à 19 pour 100 000 habitants. Donc, 19 pour 100 000 habitants, on se retrouve au niveau de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. En Calédonie, une étude estime qu'une fillette sur 6 est violée avant 15 ans. Donc ça recoupe des chiffres qui sont à peu près à hauteur de enfin non, bien au-dessus de ce qui se fait en France métropolitaine. En France métropolitaine, on l'a pour habitude de dire, et les gens sont à peu près d'accord là-dessus, que ce soit les services de l'État, les services sociaux ou les associations de protection de l'enfance, qu'on est à peu près à une fille sur 6 et un garçon sur 14. D'accord? Mais une fille sur 6 qui a subi soit une agression sexuelle, soit un viol. Là, on est à une fille sur six qui est violée. Donc la part des viols est aussi importante en Calédonie que les agressions et les viols en France métropolitaine. Mais comme vous le voyez, on n'a pas vraiment d'études particulières sur tout ça. Je vous mets les différentes cartes rapidement. Vous faites pause si ça vous intéresse. Les cartes pour 2015. Passons rapidement à 2016. Donc 2016, la pédocriminalité continue d'exploser et ce n'est pas dû à la libération de la parole. Vous avez donc le graphique avec une année de plus. Le deuxième rapport au gouvernement et au Parlement de l'Observatoire de la protection de l'enfance publie les données de la pédocriminalité pour l'année 2016. Ces données donc sont produites par le service statistique ministériel de la sécurité intérieure, le SSMSI, donc fait partie du ministère de l'Intérieur, et sont celles qui ne sont plus mises à jour sur le site Cartocrim. Donc il y avait un site qui permettait de faire des cartographies, effectivement, je ne vous en ai pas parlé, qui a été fait par la fameuse INHESJ. Et une partie de cette INHESJ qui s'appelle l'ONRDP, je me souviens plus, c'est l'Observatoire national de. Je vous le dirai tout à l'heure, je vais vous le dire tout de suite. Voilà, donc l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales. Donc les chiffres 2016, les services de police et de gendarmerie comptent sur toute la France métropolitaine. Il n'y a pas eu de chiffres sur les DOM-TOM en 2016 de communiqué. Et 12 650 agressions sexuelles, plus 3% par rapport à 2015, et 7 000 viols sur mineurs, plus 3% par rapport à 2015. Ces données confirment donc que 80% des victimes sont des filles. Par contre, il permet une fois de plus de battre en brèche l'idée reçue selon laquelle l'immense majorité des actes seraient des incestes commis dans le cercle familial. En effet, 70% des mineurs victimes d'abus sexuels se l'ont en dehors du cadre intrafamilial strict. Alors, juste pour expliquer comment ça se fait qu'on a ces chiffres maintenant. Donc déjà la première chose, le site Cartocrim, qui avec l'INHESJ ou NRDP permettait de faire des cartes et traiter en fait avec une interface spéciale ces chiffres de sécurité, il a été mis en ligne pour des raisons obscures, disant qu'ils avaient plus d'argent ou qu'ils avaient changé la manière de comptabiliser dans les gendarmeries et la police, donc on pouvait plus comparer, laissant sous-entendre que le site reviendrait. Bon, conclusion, aujourd'hui en 2022, le site a disparu, hein. Et donc on n'a plus que les index bruts, c'est-à-dire où il faut s'embêter à avoir des tableaux Excel, à faire des extractions et à refaire tous les graphiques, puisque personne, on est la seule association, on est la seule entité même. En France, a publié ce genre de graphique. C'est quand même incroyable. Et personne ne nous reprend. D'accord? Le ministère ne publie pas ça, ou de manière erratique, une fois, des fois, une fois tous les 3 ans, quand ils font un numéro spécial sur le thème. Les journaux, vous se contentent juste de vous donner des chiffres, mais ne vous les mettent pas en perspective. Ce graphique, vous ne le verrez nulle part ailleurs. Et je parle même pas des autres des associations de protection de l'enfance, qui devraient nous remercier et dire, ah, c'est formidable, ils font du boulot, c'est génial, reprendre les choses et parler de nous ou pas, mais en tout cas, au moins reprendre les graphiques, c'est quand même pas très difficile, on donne tous les chiffres. Pour parler de ça. Rien, zéro, nada. Si vraiment vous trouvez n'importe quoi, n'importe qui parle de ces chiffres, signalez-le nous, on sera très content de l'apprendre. Mais jusqu'à présent, c'est incroyablement silencieux. Donc on revient sur le tableau avec voilà, les chiffres des bruts des agressions et des viols. La tendance depuis 10 ans montre une explosion des viols, et donc effectivement, on est sur une continuité de la tendance de 2011, avec une légère, ça augmente un petit peu moins en 2016. Donc on est sur 57% d'augmentation sur 5 ans pour les agressions sexuelles, soit une augmentation annuelle de 10% par an. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 10% par an, sachant que c'est 10% de l'année d'avant, qui a 10% de plus que l'année d'avant, donc en fait, c'est énorme. Ça fait qu'on double tous les 8 ans à ce rythme-là. Je sais pas si vous imaginez. Sur une augmentation de 30% sur 5 ans est constatée sur les viols, soit pour les viols sur mineurs, 5% par an, on double tous les 13 ans. Vous voyez, vous avez les deux graphiques l'un à côté de l'autre. Le graphique en bleu, c'est donc les agressions, et le graphique en rouge, les viols. Ces chiffres sont donc à multiplier à minima par 10, comme je vous ai dit, par rapport, puisque les études annuelles de victimation cadre de vie et sécurité menées par le ministère de l'Intérieur, 15 000 personnes interrogées, elle montre qu'il y a moins d'un acte sur 10 qui fait l'objet d'une plainte. Et c'est concordant avec d'autres études de victimation. D'autres une étude de victimation consiste à demander, ah bah je vous l'ai déjà dit, à demander à un échantillon aléatoire de plusieurs milliers de personnes ce qu'elles ont subi comme délit ou crime au cours de leur vie. Donc on verra un autre podcast pour détailler tout ça. En moyenne, moins de 8% des victimes d'abus sexuels majeurs portent plainte auprès des enquêtes de 2011-2015. Donc c'est un indice dans les études cadres de vie et sécurité qui sont faites par le ministère de l'Intérieur, qui sont a priori la source complètement, on va dire qu'on ne peut pas critiquer, ou de référence. Dans ces enquêtes, il n'y a pas les chiffres du taux de plainte pour les mineurs. Par contre, on a suivi pour les majeurs. Et on est à moins de 8% pour les majeurs. Alors, j'ai du mal à croire que les majeurs portent moins plainte que les mineurs. Mais on peut essayer de m'expliquer le contraire. Voilà. Et quand on a ces mêmes genres d'études, mais qui ne sont pas faites par le ministère, qui sont faites par des associations qui mettent de l'argent et qui ont les mêmes genres de démarches, on est effectivement autour de 8% pour les mineurs, entre 8 et 10%, mais plutôt 8. Donc nous, on se permet de prendre 10 pour être prudent, voilà, qu'on ne puisse pas nous reprocher des hypothèses fantaisistes. Et on peut supposer que ce chiffre est encore inférieur, donc pour les mineurs, que 8%, donc par rapport à l'autonomie, la confiance en soi, le choc psychologique et le déni familial et le fait que c'est encore plus dur d'aller porter plainte quand on est un enfant, il faut finalement convaincre un adulte de le faire à sa place. Donc on parle bien à minima de 90 000 mineurs victimes de viol et de 160 000 mineurs victimes d'agressions sexuelles en France en 2016. D'accord? C'est à mettre en parallèle donc ces chiffres de 2016 avec les chiffres qui sortent aujourd'hui en 2021-2022 où on nous parle de 160 000 victimes d'inceste. C'est très 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 prudent hein, comme chiffre. On voit bien qu'on veut faire de la com, mais on ne veut pas se faire taper dessus. Donc c'est déjà énorme, c'est super. On est content qu'il y ait la Ciivise, la commission sur l'inceste, et on est content que le juge Durand parle de ça à la télé et dire des choses qu'on essaye de dire depuis des années. Néanmoins, 160 000 en 2021, c'est très sous-estimé. C'est le moins qu'on puisse dire. Et ceci, c'est que pour une seule année. Les chiffres ne comptent pas les actes, mais bien les victimes. Une fillette violée tous les jours pendant 10 ans compte pour un. Au global, il existe un consensus sur la question entre les administrations, les associations et les chercheurs, et donc on retrouve effectivement ces chiffres un peu partout. D'une fille sur 6, soit 15%, et d'un garçon sur 14, soit 7% des enfants français qui sont victimes d'abus sexuels avant 18 ans. Quand on prend les chiffres qui sont souvent avancés par l'OCDE sur l'ensemble de l'Europe, on est à un enfant sur 5. Donc là, c'est encore pire. Voilà. Mais ça, ce sont les chiffres sur la France. On rappellera que l'enquête de victimation Virage, qui a été faite en 2015, prouve sur un échantillon de plus de 27 000 personnes interrogées que des abus sexuels sont commis pour la première fois. Parce qu'en fait, c'est ça aussi la question. On vous demande si vous avez subi, enfin, ce que vous avez subi. Et si vous dites que vous avez subi des abus sexuels, donc. En tant que la personne qui répond au questionnaire, elle est adulte au moment, hein. Il n'y a que des personnes de plus de 18 ans qui répondent au questionnaire. Mais on leur demande, mais à quel âge avez-vous subi cet abus sexuel pour la première fois? D'accord? Et donc c'est comme ça qu'on arrive à avoir des données sur les mineurs. Ils répondent dans 60% des cas avant 18 ans. Donc ça veut dire que 60% des gens qui ont été violés l'ont été pour la première fois avant 18 ans. Donc en fait, dans 60% des cas de viol, on parle de pédophilie, de pédocriminalité. Et 30% avant 11 ans. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Il y a quasiment un tiers des gens qui ont été violés, qui l'ont été avant 11 ans pour la première fois. Et après, ça peut se reproduire dans la vie, parce que ces choses-là, hélas, les prédateurs savent repérer les victimes, entre guillemets. Les gens qui ont été victimes. Donc, quand on parle d'abus sexuels en général, en fait, on parle de pédocriminalité. Cela met aussi à mal l'idée reçue selon laquelle l'essentiel de la pédocriminalité serait subi à l'adolescence. Hein, effectivement, puisque 30% avant 11 ans, donc c'est pas l'essentiel. On parle de libération de la parole, point d'interrogation. Souvent, le lobby pédo, les médias, des gens essayent de minimiser les choses et argumentent que c'est pas la pédocriminalité réelle qui augmente, mais c'est simplement la libération de la parole qui fait monter les statistiques. Et effectivement, si vous vous dites qu'il n'y a que 10% des gens qui portent plainte, eh ben, il suffit qu'il y en ait 12%, 14%, 16% ou 20% qui portent plainte, et tout d'un coup, on fait doubler le nombre de plaintes. D'accord. Sauf que potentiellement, l'argument, c'est une hypothèse. Sauf que la proportion des victimes de violences sexuelles qui déposent une plainte est analysée dans un certain nombre, notamment d'études de victimation du ministère, qui se reproduisent chaque année, qui étaient régulières, les fameuses cadres de vie et sécurité, CVS. Et donc, elles sont bien ces études parce elles sont refaites chaque année à l'identique. Donc, ça permet de comparer les choses. Et notamment, le taux de plainte. Sur la période, donc les chiffres qu'on a réussi à obtenir, sur la période 2006-2016, donc sur 10 ans, ces résultats permettent de se faire une idée claire et fiable de l'ampleur de la soi-disant libération de la parole. Uniquement pour les majeurs, évidemment, puisque c'est les majeurs qui répondent aux questions. Mais pour les violences sexuelles, vu qu'il y en a 60% avant 18 ans, donc il y a 60% de ces délits qui concernent des gens qui l'ont subi en tant que mineurs. Donc malgré tout, ce chiffre que je vais vous présenter englobe 60% de gens qui étaient mineurs au moment des faits, 40% de gens qui ne l'étaient pas, et le taux de plainte, hélas, mélange les deux. Et évidemment, on n'a pas le détail. Donc, au niveau de la libération de la parole, les variations, comme vous voyez sur ce graphique, sont extrêmement faibles, voire même, si vous faites une moyenne, en gros, ça stagne un peu, hein. On voit que les différences ne sont pas statistiquement significatives. Moi, j'ai fait donc les tests statistiques là-dessus. On a donc sur les périodes, parce que c'est pas fait par année, hélas, les chiffres sont sur des périodes de 3 ans. Donc on voit, et c'est différencié hors ménage au sein du ménage. Pourquoi, je n'en sais rien, c'est leur idée de la chose, bon bref. Mais vous voyez qu'on est en train de ces données varient entre 7 et 9%. 10% pour vraiment la dernière période au sein du ménage. Alors est-ce que ça recouvre plutôt des mineurs ou des majeurs, je ne sais pas. Mais vous voyez bien que ça n'a pas évolué. Alors que dans le même temps, entre 2011 et 2016, on a une augmentation énorme. Mettez ça en parallèle avec le premier graphique que je vous ai montré. Les abus sexuels, on passe de 12 000 à 19, à presque 20 000. D'accord? Donc si c'était la libération de la parole qui intervenait, sur la fin du graphique, vous devriez avoir quelque chose qui passe de 8% à 14% ou à 16%. D'accord? Ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas, d'accord? Sur la période 2014-2016, on devrait être largement au-dessus de ça. Donc, non, non, avec les données qu'on a, et c'est un indicateur très important, puisque comme je vous le répète, 60% de ces données-là sont faites sur des abus sexuels qui ont été commis à l'âge où les gens étaient mineurs. Non, effectivement, on n'a aucun indice qui laisse soupçonner qu'il y a une certaine libération de la parole sur ces sujets-là. Voilà, attendons les chiffres pour les années d'après. En d'autres termes, le dépôt de plainte ne varie pas suffisamment pour que ça veuille dire autre chose que l'effet du hasard lors de l'échantillonnage des personnes interrogées. Alors, sachant que sur des volumes comme ça, quand même, l'effet du hasard est relativement gommé, mais bon, on aurait du mal à croire que ces taux varient de manière différente pour les mineurs. Donc on en tire la conclusion que si la parole se libère dans les repas de famille avec des amis ou des confidents, cela ne se traduit pas pour autant par des plaintes et des actions en justice, qui sont douloureuses émotionnellement, qui sont coûteuses, qui sont fastidieuses, qui pompent énormément d'énergie, qui remettent énormément de choses en question vis-à-vis de vos proches ou de votre famille ou de vos amis, mais qui peuvent être salvatrices psychologiquement par la reconnaissance publique des faits. Néanmoins, c'est pas ce qu'on constate. Et il faut donc en déduire que, hélas, c'est bien la pédocriminalité réelle qui explose et non pas le taux de plainte des victimes. D'accord? C'est très important parce que c'est vraiment un argument médiatique qui est utilisé de manière relativement habituelle, qui sous-entendrait en fait qu'il y aurait un lien entre le fait qu'on en parle dans les médias mainstream plus qu'à l'époque, c'est vrai, aujourd'hui en 2021, 2022, il y a eu MeToo Inceste, il y a eu beaucoup de choses. On parle plus de pédocriminalité dans les médias. Est-ce que pour autant, parce que la parole se libère dans les médias, elle se libère au niveau des gens, de Monsieur Tout-le-Monde, dans les plaintes? Pas forcément. La parole peut se libérer dans les familles, la parole peut se libérer dans la sphère privée, sans pour autant que ça ait des conséquences dans la sphère publique. Et là, on peut aussi retomber sur tout ce qui est les débats de la prescription, voilà, des preuves, les gens, quand ils regardent un petit peu ce que c'est que le parcours judiciaire, on en parlera à la fin de ce genre d'affaires, eh ben, je suis désolé de le constater, mais on peut aussi comprendre que des gens préfèrent laisser tomber. Voilà, dire les choses devant tout le monde, les choses soient claires avec tous les gens qui étaient impliqués, sans pour autant aller au-devant d'un processus judiciaire très difficile, qui savent un peu perdu d'avance dans le contexte de la justice française. Voilà. Maintenant, on passe à l'offensive. Nous faisons face à un phénomène de société réel, brutal, omniprésent et quantitativement très important. Cela a certainement été favorisé par Internet, l'hypersexualisation des enfants et le déni ou le manque de vigilance des parents qui préféreraient vivre dans un monde sans pédos. Nous aussi, on aimerait ça. Mais ce n'est pas le cas. Il faut voir la réalité en face. Sans tomber dans la paranoïa ou l'anxiété permanente, il est temps de veiller rationnellement sur nos enfants en prenant nos dispositions dans tous les moments où ils pourraient être exposés à des prédateurs. Exemple de questions qu'on pourrait se poser. Quelles sont les situations où je confie mon enfant à quelqu'un? Qui peut être amené à être en contact avec mon enfant au moment où je le confie? Pour faire quoi? Pour aller où et dans quelles conditions? Quels éléments ai-je en ma possession pour donner ma confiance? Est-ce que j'ai au moins un casier judiciaire vierge de la personne à qui souhaite que je lui confie mon enfant? Que ce soit dans le cadre d'une institution, dans le cadre d'un club, dans le cadre d'une amitié, dans le cadre de ce que vous voulez? Et dois-je vraiment afficher mes enfants sur les réseaux sociaux? Aussi, évidemment, ça les expose. Réveillons-nous et assumons de manière responsable le monde dans lequel nous vivons, car les gosses violés n'en ont rien à faire de nos états d'âme, de nos œillères ou de nos paresses coupables ou de nos espoirs de rêver dans un monde de bisounours. C'est en parents et en citoyens responsables que nous devons agir. Nos enfants sont la société de demain, protégeons-les, quitte à bousculer les habitudes, à parler de ce qui fâche ou de ce qui met mal à l'aise. Protéger nos enfants est notre droit le plus fondamental et notre devoir biologique le plus essentiel. En tant que parents, quoi d'autre? Quoi d'autre? Si vous ne faites pas ça en tant que parents, vous êtes qui? Vous servez à quoi? Réfléchissez bien. En cas de découverte d'un cas d'enfant abusé sexuellement, le réflexe à avoir est d'abord et avant toute chose d'aller faire des examens médicaux et de consulter un pédopsychiatre le plus vite possible. D'abord le médical. Avoir les preuves. Ne pas laver les habits, etc., etc. Puis ensuite, d'aller voir effectivement les forces de l'ordre et d'exiger la procédure Mélanie. Procédure qui, théoriquement, est possible dans tous les gendarmeries ou les commissariats de France. Et si l'endroit où vous allez n'est pas équipé, vous pouvez être amené à être, comment dire, confié à une autre brigade qui est spécialisée, qui possède les compétences et le lieu pour faire cette procédure Mélanie, qui concerne principalement à ce que, y ait une audition unique de l'enfant par les forces de l'ordre formées, spécialisées, pas en uniforme, dans une salle aménagée pour faire confiance à l'enfant, pour donner confiance à l'enfant, avec un enregistrement audio et vidéo du témoignage de l'enfant victime recueilli par un personnel donc formé, spécialisé. Demandez aussi à ce qu'il vérifie que la caméra et les micros marchent bien avant que la procédure Mélanie soit lancée, car trop souvent, nous on constate dans les procédures que les choses sont inexploitables parce que le matériel est défectueux, ou il y a eu une mauvaise manipulation, ou il n'y avait plus de batterie, etc., etc. Voilà le genre de petits coups qu'on peut avoir. Donc, mais ça vous le saurez qu'après. Donc, honneur, force et courage, l'équipe Wanted Pédo. Je tiens à signaler quand même, rendez-vous compte de ce que nous on écrivait en 2015-2016. Voyez, enfin, on pense qu'on a quand même fait bouger le débat français là-dessus, on pense qu'on a eu notre rôle là-dedans, que le lobby féministe nous a lus, qui a plus de pouvoir que nous, évidemment, plus d'influence, et que. Mais voyez un petit peu l'actualité de ce qu'on écrivait il y a 6 ans. C'est. Voilà. Heureusement, ça commence à arriver sur la place publique.